en compagnie de Jean-Éric Biel et Karine Baudard. C'est ça ou pas?
Oui,
parce que
oui,
souvent je me trompe sur les noms et les noms. Vous allez bien?
Oui, très bien,
très merci.
Bien.
Vous-même?
Bah, parfaitement.
Merci de nous recevoir.
Vous venez nous parler de la pièce de théâtre « Quand vient le printemps ».
Oui.
Donc, où, qui est, de ce que j'ai lu, une réadaptation d'une première pièce qui s'appelait « Le Square ».
Exactement.
Qui était, du coup, une pièce écrite pour deux acteurs principaux hommes. Et là, ça a été écrit pour deux actrices principales femmes.
Voilà, exactement. Tout est dit, on peut y aller, c'est bon.
C'est bon. C'était le feu, on a lâché les starting blocks. Pour commencer, je voulais savoir un peu, depuis combien de temps vous travaillez sur cette pièce mutuellement?
En fait, cette pièce, je l'ai écrite en 2015, si ma mémoire est exacte. Et donc, effectivement, au départ, pour deux hommes et une femme. Et puis, on l'a montée à Paris au studio Héberto. On a commencé à travailler dessus. On devait la faire au studio Héberto. Et puis, plus tard, on devait la jouer à Avignon. Et puis des imbroglios divers et variés que nous n'avons pas pu maîtriser ont fait que la pièce n'a pas pu se monter. J'ai été un peu frustré de ça. Et je sais pas, comme vous savez, les auteurs, ben voilà, on est comme ça, de temps en temps on a des creux, on sait pas quoi faire, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va écrire. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, pourquoi je changerais pas finalement cette histoire que j'ai écrite pour deux hommes? Ce serait pas intéressant de l'écrire pour deux femmes. Donc je me suis attelé à cette tâche. Et puis, j'ai pris un plaisir fou parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la situation d'être dans la peau d'une femme, ce qui est très agréable, je dois le dire. Et puis, de deux femmes, en l'occurrence. Et donc, j'ai écrit cette version-là et que j'ai rebaptisé « Quand vient le printemps » parce qu'à l'origine, j'avais écrit la première pièce pour les garçons, « Le Square ». Mais Francis Huster, que j'étais allé voir pour une autre pièce, m'avait dit « Mais il y a déjà une pièce qui s'appelle « Le Square ». Et elle a été écrite par Marguerite Duras. Alors j'avais été un peu ennuyé par cette coïncidence. Et en fait, une coïncidence tout à fait à propos, d'ailleurs, parce que la pièce de Marguerite Duras se passe effectivement, elle aussi, dans un square, ce qui est le cas de la mienne. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a appelé comme moi, comme ça. Donc ça me dérangeait un peu, et du coup, bah, j'ai changé le titre, parce que je trouvais ça très honorifique d'avoir le même titre que Marguerite Duras, mais en même temps, un peu pas tout à fait convenant, donc je l'ai appelé « Quand vient le printemps ». Voilà.
Et du coup, les deux versions, vous les avez éditées, parce que du coup, le square a été mis en spectacle.
Voilà, on a commencé à travailler sur le square, oui, avec la mise en scène, et puis deux acteurs masculins. Il y avait Geoffroy Thiébaut, que vous connaissez peut-être, qui est un acteur qui a joué dans la série Braco sur Canal. Mm-hmm. Voilà, il jouait le rôle du commissaire Vogel, qui est un méchant, voilà. Et l'imitateur Gérald Dahan, que vous connaissez sûrement aussi, qui était dans un rôle à contre-emploi. Qui avait eu un coup de cœur pour cette pièce, Gérald, je connais depuis très longtemps, et qui avait voulu la jouer. Bon, puis l'affaire n'a pas pu se faire, et Karine Baudard, qui est ici présente dans le studio, jouait le petit rôle féminin de la pièce. Et quand j'ai inversé l'écriture, effectivement, bah, c'est devenu des rôles principaux pour les femmes et un petit rôle secondaire pour un garçon. Mm-hmm. Et voilà comment l'histoire s'est faite.
D'accord. Karine Baudard, j'aimerais beaucoup que vous nous... racontiez rapidement la pièce, mais on va rajouter une petite touche, c'est-à-dire du point de vue de votre personnage.
Mm-hmm. Avec plaisir, oui. Bah déjà, c'est une très belle création contemporaine donc de Jean-Éric Biel. Cette pièce, elle est extrêmement touchante parce que je pense qu'elle aborde des sujets qui nous touchent tous aujourd'hui. Et le rôle qui est le mien, qui est celui d'Alexandra, donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a deux rôles. Virginie, qui est campée par une autre formidable comédienne, qui est Guylaine Marie. Donc Virginie va arriver un matin dans un square, et elle ne sait pas qu'elle va rencontrer une autre femme, un autre personnage, donc effectivement que j'incarne, qui s'appelle Alexandra. C'est une rencontre de deux femmes qui viennent de deux univers différents et qui vont petit à petit en fait apprendre à se découvrir. Donc mon personnage, je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est un personnage qui est à la fois tout en tendresse et qui va aborder cette femme au départ en l'agaçant, en étant effectivement très intrusive, de plus en plus intrusive dans la vie de cette jeune femme hein, qui vient tranquillement se reposer dans un square. Mais elle vient pour un but bien précis et petit à petit, elle arrive à faire sa conquête De sorte que Virginie va lui accorder du temps, va la prendre en considération et va se nouer une histoire, une histoire entre ces deux femmes assez, assez merveilleuse et qui va bouleverser en fait le destin de ces deux femmes.
On vous en dira pas plus.
Voilà, on vous en dira pas plus. J'essaye de pas en dire trop. Mais mon personnage est un personnage assez de ce fait intrusif, mais à la fois protecteur.
D'accord.
Voilà, protecteur. Et j'adore ce jeu. C'est comme un artichaut dans lequel vous allez rentrer. Et une fois que vous serez au cœur de l'artichaut, voilà, moi, je vais rentrer dans son petit cœur d'artichaut. Mmh. Et elle pourra plus se défaire de moi.
Du coup, je dis à nos auditeurs, je n'ai pas eu l'occasion de lire la pièce pour le moment. Ça ne serait tardé.
J'espère.
On espère, oui.
Mais surtout que vous allez venir la voir, voilà. Parce que nous la jouons à la salle Jean Cup Game. C'est ça. Je tiens à le dire. Mardi prochain, mardi 6 novembre à Tours, c'est la salle Jean d'Okegem, je ne sais pas vous voyez où elle est.
À 20h30.
Voilà, à 20h30, et donc,
on sera là.
Avec grand plaisir. Et vos auditeurs aussi, j'espère.
Je l'espère aussi, venez la voir. Moi, j'avais une réflexion sur ce début de ce que j'en ai entendu, vraiment. J'ai trouvé ça rigolo que ça commence dans un square, alors que de tout ce que j'ai lu sur la pièce, c'est vraiment, on insiste sur le fait que cette femme... que Karine Baudard vous jouez, est intrusive réellement, et que ça se passe dans un square et pas dans un café. Dans le sens où c'est un plein air, elle aurait pu partir, s'enfuir, et prendre le... Et là, elle a pris le choix de rester, d'une certaine
tout
manière, alors que si elle était dans un café, elle aurait pu tout de suite se sentir enfermée.
Tout à fait.
Et pourquoi... c'est peut-être un peu niais comme question, hein, mais pourquoi avoir choisi cet espace-là pour commencer une pièce?
Alors, je vais vous dire très 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 honnêtement, la question n'est pas niaise du tout, et en fait, elle a à voir simplement avec l'origine de la pièce. Vous savez, moi je suis un auteur, j'ai écrit en fonction de mes émotions, en fonction de ma vie, en fonction des événements qui me sont arrivés, de ceux qui m'arrivent encore, et je m'inspire beaucoup lors de promenades que je fais avec mon chien, ou tout seul, et toujours avec mon chien, je sais pas pourquoi je dis tout seul, parce qu'il m'accompagne toujours. Et un soir, je sortais mon chien dans là où nous habitions, et puis je fais un petit tour avec lui, et il était 20h30, 21h, c'était un début de printemps, et puis je vois un type qui était un peu plus loin, qui avait une bonne tête, il a une tête sympathique, il est en train de réparer sa moto, moi je suis motard, j'aime bien les motos, et je ne connaissais absolument pas, et j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien être pote avec lui, mais en fait, sans le connaître du tout et sans absolument aucune équivoque. Et ça m'a inspiré le début de cette histoire. Et en fait, c'est pour ça que donc cette femme arrive dans ce square de façon tout à fait intrusive vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que ça se passe dans un square, parce que moi, j'étais dehors quand ça s'est produit. J'étais dans la rue, enfin, j'étais dans un environnement ouvert. Et donc, quand je suis rentré chez moi, voilà, l'inspiration aidant, j'ai commencé à écrire la pièce et je pense que c'est simplement parce que j'étais dans ce contexte-là que j'écris la pièce qui démarrait dans un square, tout simplement.
Et c'est ce qui est aussi le square, la rue, qui est aussi un lieu de rencontre favorable, on va dire, même si c'est un lieu compliqué parce que c'est conflictuel aussi sur les regards, les choses comme ça, mais c'est quand même un lieu de rencontre. Karine Baudard, vous travaillez avec Jean-Éric depuis combien de temps ?
J'ai commencé avec Jean-Éric Biel sur le square.
D'accord.
Voilà, principalement. Et voilà, je suis très admirative de la finesse de son écriture, de la façon dont il construit ses personnages. Voilà, ça c'est quelque chose qui me fascine. Et je vous dis encore une fois, le maniement de la langue française chez lui, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai du respect pour ça. On a oublié de parler aussi d'un autre comédien dans la pièce, qui est Pascal Duhamel. Et le troisième comédien.
Qui est un Tourangeau.
Est un Tourangeau. Voilà, qu'on salue s'il écoute. Voilà, qui campe aussi un rôle très important et voilà, qui fait partie aussi de cette,
oui, parce
de
que
cette
le
aventure.
Rôle, aussi bien dans la pièce quand elle était écrite pour des garçons que quand elle est écrite pour des filles, là, je veux dire, le petit rôle, soit féminin, soit masculin de la fin, est petit en durée de présence scénique, mais il est important par rapport à l'ensemble de la pièce, quoi, parce que c'est lui qui conclut vraiment la pièce.
D'accord, ouais, parfait. Là, on a fait un peu un tour d'horizon. On va venir justement plus profondément après sur les personnages, sur l'histoire. Je vous propose qu'on écoute un petit morceau.
Volontiers.
Pour nos auditeurs, comme ça, ils voient un peu. Alors, moi, j'ai choisi un morceau qui vient de sortir. Le clip vidéo vient de sortir et m'a fait beaucoup rigoler. C'est un morceau de Hippocampe Fou et c'est un morceau qui s'appelle Fallait pas rigoler. et sur tous ces moments où il ne faut surtout pas rigoler. À tout de suite sur Radio Campus Tour 99.5.
Fallait racheter des capotes, mais tu t'es bien fécondé. Et dans deux jours elle avorte, t'es sortie picolée. Tu viens de rentrer, elle te demande de la réconforter. Là, faut pas rigoler, c'est pas facile vu que t'es torché. Faut pas rigoler, t'as envie de blaguer sur l'IVG. Faut pas rigoler, tu sens l'émotion qui l'assaille. La tête posée sur son bassin, tu dis, tu veux qu'on le garde dans un bocal. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. C'est le rôle de ta vie, le plan le plus cher du film. Tu dois te raser la tête pendant l'explosion d'un building. T'as été pistonné mais le ciné c'est ta passion. Le réel vient de crier action. Faut pas rigoler, tu veux prouver que t'es bon acteur. Faut pas rigoler, t'entends le bruit du détonateur. Faut pas rigoler, t'as les sinus qui piquent, rien ne pouvait t'arriver de pire. T'éternues sur l'objectif avant d'éclater de rire. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Trompé d'étage à l'hôpital, tu te retrouves dans l'unité de soins palliatifs, c'est abominable. T'entends des cris d'agonie que tu peux pas ignorer. Tu croises la famille d'un malade là, faut pas rigoler. On dirait des cris de plaisir, faut pas rigoler. Ta bédave avant de venir, faut pas rigoler. Soudain t'es pris d'empathie et pour t'en sortir, tu te lâches et tu dis moi aussi je veux de la morphine. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Dansais dans la rêve partie, tu te réveilles dans un cabanon, séquestré par un type sans répartie dont l'esprit vagabond. T'es isolé, terrorisé, donc t'essaies d'ironiser. Mais là faut pas rigoler, il a une voix ridicule. Faut pas rigoler, il est trop petit son bull. Faut pas rigoler, tout ça n'est pas si marrant. Mais là tu te rappelles que pendant la rêve t'as pris du gaz hilarant. Quand t'as l'estomac noué, quand tu bois la tasse, le rire c'est ta bouée, c'est ta carapace. L'humour faut bien l'avouer, peut sauver la face. Mais parfois vaut mieux pas glousser, attendre que ça passe. Fallait pas rigoler. Fallait pas rigoler. Fallait pas rigoler. Fallait pas rigoler. Pourtant t'as rigolé.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5. Après avoir échauffé vos zygomatiques, nous sommes toujours avec Karine Baudard et Jean-Éric Biel. Ils viennent nous présenter la pièce « Quand vient le printemps ». Ça va toujours ?
Très
toujours
bien.
Très bien.
J'ai hâte de voir le clip de cette chanson, parce qu'elle va être rigolo.
Il est super. C'est un album qui date d'il y a quelques années, enfin 2-3 ans, et ils viennent de clipper là, il y a cette semaine. Et vraiment, super le clip.
Marrant,
je le conseille à tout le monde. Tout de suite, j'aurais voulu qu'on parle un peu de vos expériences passées, du coup. D'où vous venez, qui vous êtes, tout ça. C'est vous qui voyez par qui on commence.
Honneur aux dames.
Honneur aux dames. Alors, j'ai voulu dire qu'il y avait, pour votre part, un parcours un peu atypique,
hein,
si je puis dire.
Oui.
Je vous laisse vous présenter.
Eh bien, écoutez, ce parcours atypique, effectivement, il commence, comme vous, au lycée, avec un atelier théâtre. Une passion du théâtre, quelques suites après bac dans une compagnie qui s'appelait Cosa Nostra, et puis une autre vocation qui était celle de la transmission du savoir, donc de l'enseignement. Voilà, c'est une autre forme d'être mise en scène, voilà, un petit peu tous les jours devant différents publics pendant un certain nombre d'années, puis voilà, un retour aux premières amours, voilà, grâce à Jean-Éric Biel.
D'accord.
Parce que... Un auteur comme lui, ben effectivement, on ne rencontre pas souvent.
Et moi, j'avais une question sur du coup les élèves que vous avez pu croiser. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le théâtre a encore sa place auprès c'est une grande question, hein, mais auprès des jeunes et peut encore toucher les jeunes?
Ah oui, moi je pense que c'est primordial. Je crois qu'il y a de nombreux efforts faits par les enseignants, notamment en français. Je me souviens d'expériences avec une collègue de français qui a pu monter Rhinocéros. C'était un travail monumental, à la fois avec des collégiens et des lycéens, dans un théâtre à l'italienne extraordinaire. Antigone, pareil, on pleurait devant Antigone. Donc je pense que les élèves ont du génie, ont autant de talent que les comédiens qui sont aguerris. Hein. Je pense que ce sont des graines, voilà, des graines de stars. En tout cas, il y en a certains, et beaucoup. Hein. Il y a vraiment une spontanéité chez les adolescents que peut-être on n'a plus forcément après. Il n'y a pas de stress, ils vous donnent vraiment beaucoup. Nous, on doit travailler très très dur. Je pense que pour eux, c'est peut-être plus spontané.
Et c'est lequel le rôle le plus dur alors ? Le rôle de professeur ou le rôle au sein de quand vient le printemps et du coup d'être actrice ?
Je crois que le rôle le plus difficile, c'est quand même celui d'être d'actrice.
D'accord.
Parce qu'en fait, vous campez différentes vies. Voilà, moi c'est ce qui me plaît hein, dans ce métier, c'est de vivre mille et une vies qui ne sont pas les miennes, voilà, et d'essayer de les incarner le mieux possible, en tout cas de ressentir les vibrations de ces vies, voilà, de leur donner corps. Le métier d'enseignante est complètement différent. Vous avez des publics qui sont différents, mais le savoir, vous avez une technique. Hein, voilà. Je pense qu'au théâtre, il y a une technique aussi pour être sur scène, mais je pense que la technique parfois vous échappe et que vous pouvez être rattrapé par vos émotions. Voilà, un professeur, ça n'a pas le droit de se laisser aller à ses émotions. Voilà, donc c'est très formateur. Je pense que les deux sont très formateurs et que l'enseignement mène aux planches parce que on est sur les planches tous les jours. Voilà. Donc moi j'encourage.
C'est un public pas facile.
C'est un public pas facile et en même temps qui est quand même charmant parce que. Parce qu'ils sont quand même très attachants. Voilà.
Ok, parfait. Et du coup, vous avez dû reprendre un peu le théâtre après avoir décidé de... Vous n'avez jamais lâché et vous êtes vraiment relancé derrière ?
J'ai lâché par nécessité, voilà, parce que la vie a fait qu'il a fallu faire d'autres choses professionnellement. Et puis ensuite, voilà, retravailler pour donner le meilleur de moi-même. Essayer de convaincre l'auteur aussi que j'étais à la hauteur. Voilà, au départ, j'ai un parcours très atypique comparé à Guylaine Marie, qui a fait le cours Florent, qui est encore une association de théâtre aujourd'hui, qui est adorée par ses élèves aussi, et voilà, qui n'a jamais quitté, je crois, le milieu du théâtre.
Et
donc,
vous vous êtes rencontrés comment ?
Tous les deux ?
Oui.
On s'est rencontrés... comme on se rencontre dans la vie, c'est-à-dire de façon tout à fait, je vais dire, entre guillemets, banale, sans que la rencontre soit ordinaire, puisque nous avons réussi justement à faire ce parcours et ce chemin ensemble. Voilà, mais ça n'a pas forcément... Vous savez, les rencontres, elles se font un peu comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit la pièce parce que j'ai rencontré ce monsieur que finalement j'ai jamais rencontré, parce que je lui ai jamais dit à ce monsieur qui était devant sa moto.
Merci à lui quand même, parce que du coup, on a une pièce de théâtre.
Mais je peux même pas dire s'il nous écoute, je le salue, parce qu'il ne le sait pas du tout. Donc voilà, et donc c'est ça les inspirations aussi, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, qui n'est pas du tout, qui a une expérience, disons, décalée par rapport aux comédiens traditionnellement, qui n'ont jamais arrêté ce métier qu'ils font depuis longtemps. Et puis, cette personne est très émue par votre texte, vous dit qu'elle a envie de le jouer. Et là, vous dites, pourquoi pas, mais enfin bon, on va faire comme toujours, on va faire un casting, on va faire des essais, on va voir ce que ça donne, quoi. Puis quand les essais sont concluants et convaincants, vous vous laissez porter, et puis vous dites, oui, absolument. Voilà, donc je crois pas qu'il y ait dans ce métier-là, de toute façon, je pense qu'il y a ni débutant, ni passe-droit, ni rien du tout, soit on est bon, soit on n'est pas bon, quoi. Si on n'est pas bon, on dure pas, et puis on fait autre chose. Si on est bon, ce qui veut pas forcément dire que si on est bon, on a du boulot, hein, ça c'est un autre débat, c'est un autre problème. Mais voilà, je pense que quand on est mauvais, je pense que on peut pas se permettre, soit en tant que producteur, soit en tant qu'auteur, de prendre un risque sur un comédien qui est pas à la hauteur, c'est juste pas possible, quoi, c'est pas concevable, quoi.
Et du coup, là, sur cette pièce, vous êtes écrivain, metteur en scène.
Oui, absolument.
De ce que j'ai lu. Du coup, c'est votre première mise en scène.
Oh, c'est pas vraiment ma première mise en scène. Enfin, au théâtre, oui, c'est ma première mise en scène parce que moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière. Et donc, ça m'est arrivé de diriger des courts-métrages, de diriger des clips vidéo, de diriger des séries télé, des choses comme ça. Donc voilà, donc j'ai une activité multiple, on va dire, un peu polyvalente dans ce métier qui fait que bon... mais au théâtre, oui, c'est ma première mise en scène au sens strict du terme. Voilà, voilà, tout à fait.
Et du coup, un peu sur le passé, pour qu'on fasse une rétrospective un peu, d'où est-ce que vous venez? Pourquoi le théâtre?
Alors, je vais vous dire, c'est extrêmement simple. C'est que moi, je viens de la radio et de la télévision. Je fais beaucoup de radio et de télévision. Je commençais par la radio, comme vous, quand j'avais votre âge, quand j'étais jeune, il y a longtemps. Et donc, j'ai monté une société de production radio. J'ai produit pas mal de spots radio pour la télé, pour la pub. Bon, voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup d'émissions de radio, de télévision, à Canal notamment, où j'ai travaillé au Guignol pendant plusieurs années. J'ai travaillé aussi avec Laurent Ruquier sur France Inter, avec Laurence Boccolini, avec Stéphane Bern, enfin avec beaucoup de gens. Et j'ai fait des tas de choses. J'ai écrit des billets d'humeur, j'ai écrit des messages de pub. Bon, voilà, j'ai écrit des scénarios. Et puis de fil en aiguille, des séries télé, voilà. Et de fil en aiguille, j'avais toujours eu cette envie de théâtre. Parce que quand j'étais gamin, je me souviens, quand j'avais 10, 11 ans, j'écrivais des pièces de théâtre, des petites pièces de théâtre avec plusieurs personnages. Je les enregistrais sur un magnétophone qui s'appelait Geloso à l'époque, c'était un magnétophone à bande. Voilà, ça c'est les plus de 20 ans qui peuvent vous s'en souvenir, parmi vos auditeurs, d'ailleurs peut-être pas beaucoup d'ailleurs, mais peu importe. Et en fait, le soir, je convoquais mes parents à s'asseoir sur des tabourets et à écouter ma pièce. Bon voilà, c'était la corvée pour eux certainement, mais c'était le bonheur pour moi. Et donc ça revient de très loin, et puis la vie, les hasards ont fait que je suis plus allé dans l'audiovisuel, c'est-à-dire la radio, la télévision, le cinéma, que dans le théâtre. Et il y a 3-4 ans, après avoir monté j'avais écrit un film qui a failli se faire, et le failli se faire a commencé à me gonfler, parce que j'en ai marre des choses qui ne font que faillir se faire et qui ne se font pas. Et je me suis dit, mais ça peut être finalement être plus simple d'écrire pour le théâtre, de mettre 3 comédiens sur une scène, que de monter un Barnum comme peut l'être un film. Et en fait, je me suis trompé, parce que c'est aussi compliqué, finalement. Parce qu'il faut trouver des structures, des théâtres, il faut que les comédiens soient d'accord, il faut que le casting soit bon, il faut que le théâtre soit libre, il faut que tous les comédiens soient libres en même temps, il faut un producteur pareil, etc. Mais bon, disons, c'est quand même relativement plus simple, oui, quand même, un petit peu. Oui.
Et donc là, vous êtes en tournée?
Là, on est en tournée, oui, on va jouer donc mardi prochain, 6 novembre, à Tours, salle Jean de Hockegem, 15 places de Châteauneuf, je le dis pour vos auditeurs, réservé sur 07 67 451 462, 07 67 451 462.
On jouera la dernière le 29.
Le 29 novembre, toujours dans la même salle à Tours. Ensuite, nous irons à Nantes.
À Nantes le 14 janvier. Et les dates seront à préciser pour Amboise, Châtellerault, Poitiers.
Et d'autres encore.
Et d'autres encore par la suite.
D'accord, parfait. Et ben, comme on annonce des dates, juste après, c'est de la musique. Ça va comme ça. Alors, on va écouter un morceau, un peu de pop américaine, ça fait pas de mal. C'est pas du tout ce que j'écoute, mais ce morceau m'a bien mis des frissons vis-à-vis de son clip vidéo, toujours. Hein, parce que je suis assez... sensible à la vidéo.
Audiovisuel.
Audiovisuel, c'est ça. Et du coup, là, on est sur un morceau qui s'appelle Rescue Me, désolé pour l'accent, de 30 Seconds to Mars, avec du coup le groupe de Jared Leto. Et je vous laisserai aller voir le clip vidéo qui est vraiment très très beau sur la différence et toutes ces thématiques-là qui reviennent souvent. Mais il faut en parler. Du coup, voilà, je vous laisse écouter ça et on revient tout de suite sur Radio Campus Tour 99.5.
Whatever you do, don't ever play my game. Too many years being the king of pain. You gotta lose it all if you wanna take control. Sell yourself to save your soul. Rescue me from the demons in my rescue me, rescue me, rescue.
being too. Don't ever lose your faith. The devil's quick to love lost in fame. Better to say yes than never know. Oh, sell yourself to save your soul. Rescue me.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 pour l'émission Sortez. Et je suis toujours en compagnie de Jean-Éric Biel et Karine Baudard. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal avec les prénoms.
Bon, le mien est un peu compliqué. Ça.
Qui viennent nous présenter le spectacle Quand vient le printemps. Tout de suite, j'aimerais qu'on parle de l'association. Et si on éteignait nos portables, du coup, qui produit du coup le spectacle,
oui.
Je ne
oui.
dis pas de bêtises, et tout dont vous êtes les instigateurs, j'aime beaucoup
exactement,
ce mot.
Exactement.
Est-ce que vous, voilà, vous pouvez nous parler un peu de la naissance de cet organisme?
Le hasard et la nécessité, cher ami.
Ça fait tout.
Voilà, exactement. Non, c'est trouvé simplement que, quand je vous ai dit tout à l'heure, au début de notre émission, qu'on n'avait pas pu monter le square comme on avait voulu le faire. Donc là, on a simplement eu besoin d'une structure juridique pour voler de nos propres ailes et puis pour, faire cette, pour monter cette pièce. Après, il y a deux solutions pour le faire, soit effectivement l'association loi 1901 à vocation culturelle et non lucratif, mmh. et une société de production classique. Voilà, et nous on a monté les deux. Voilà, pour que tout simplement les choses soient extrêmement claires vis-à-vis à la fois du public, du fisc, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas. Non, enfin même, c'est pas grave, on n'a rien à gâcher. Donc voilà, pour se lancer, on va dire, dans la production de ce spectacle. C'est la première pièce qu'on fait, donc voilà, donc après on en montrera d'autres. Et puis de toute façon, pour le moment, on est dans un statut associatif, culturel et... Et voilà.
Donc elle a uniquement vocation à porter le spectacle en fait.
Absolument, tout à D'accord. fait. Et le mien et d'autres, voilà.
Le spectacle vivant.
Voilà, ouais. Le mien et d'autres, voilà. C'est, on a évidemment envie de la faire fructifier, que des gens viennent dans cette association. On est déjà plusieurs membres. Qu'elle grossisse et puis on verra par la suite, voilà, ce que ça donnera. Quoi. Mais il faut, de toute façon, on peut pas se lancer comme ça sur scène sans avoir une structure juridique qui soit un support indispensable, obligatoire.
Ah, parfait. En tant qu'écrivain amateur, j'ai une question que j'aime beaucoup poser face aux personnes qui écrivent, du coup, qui ont sorti des livres.
Oui.
Comment on franchit le pas à un moment donné, donc ça fait longtemps que vous écrivez,
oui.
on franchit le pas à un moment de dire je vais montrer aux autres ce que j'ai construit et je réussis à en faire un métier. véritablement, parce que du coup là, que ce soit sur Canal, sur tout ce qu'on a dit avant, c'était quand même l'écriture qui était mise en avant.
Totalement.
Sur votre travail. Du coup, voilà, comment on franchit ce pas et comment on vit de ce qui sort de notre stylo.
Je crois tout simplement que quand on embrasse une carrière artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, la dramaturgie, on se retrouve à un moment donné dans une espèce de nécessité obligatoire de produire. Voilà. Ce qui fait que c'est à la fois extrêmement enrichissant sur le plan personnel, pas toujours sur le plan pécuniaire, quelquefois loin de là, parce que c'est difficile de vivre de son art et d'en vivre bien. Mais je crois que c'est une nécessité et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quand on est vraiment habité par une passion, et d'ailleurs je pense que c'est valable pour toutes les passions, je pense que les gens, je sais pas, qui ont la passion automobile ou la passion de la médecine, ou je sais pas quoi, on ne peut pas faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On se trouve dans une situation où pourtant on peut avoir des opportunités. Il y a toujours quelqu'un pour vous conseiller, pour dire « Mais pourquoi tu gagnes pas un rond là? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça ?» Et voilà, moi je sais que quand j'avais 25 ans et que j'ai commencé, j'avais des amis qui avaient fait des études, qui commençaient à avoir commençaient à s'acheter des bagnoles, des machins, etc. Et à vivre avec leurs petits amis, louer des appartements, à s'embourgeoiser, etc. Et moi j'étais toujours en train de ramer. Je continuais à ramer et puis je me disais, je sais pas combien de temps je vais ramer, mais j'ai ramé, voilà. Et puis après j'ai moins ramé parce qu'effectivement j'ai eu une carrière qui m'a permis de gagner ma vie correctement, que ce soit à Canal, à France Inter ou ailleurs, ou à France 2 aussi dans d'autres émissions. Voilà. Et puis après, quand on embrasse une carrière comme ça, c'est une carrière qui forcément, obligatoirement, nécessite, mais c'est mon point de vue, hein, tout le monde n'est pas obligé de le partager, qu'on fasse en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc à un moment donné, ce qui me rapportait beaucoup d'argent est devenu beaucoup moins intéressant pour moi, parce que c'était un peu routinier, c'était un peu mécanique, c'était too much, quoi. Donc je suis revenu vers mes premières amours, qui ont été effectivement moins rémunératrices. Voilà, je crois que c'est pour répondre à votre question, c'est comment on fait. Je crois qu'on fait comme on peut et on fait surtout parce qu'on peut pas faire autrement.
On fait au mieux.
Comment ?
On fait au mieux.
Aussi. Exactement, exactement. Oui, tout à fait.
Toujours sur cette écriture, vous avez dit que vous aviez écrit deux fois la pièce, donc pour les hommes, pour les femmes.
Oui.
Et là, ma question s'adresse à Karine, qui est-ce que vous avez vraiment senti cette différence quand la pièce a été réécrite pour les femmes? Parce que du coup, dans le dossier de presse que je reçois, je le dis à mes auditeurs, j'ai lu que ça avait vraiment changé les choses, véritablement. Et du coup, voilà, je voulais avoir l'avis de la comédienne.
Pour avoir vu les deux versions, je pense qu'effectivement, la réécriture par Jean-Éric Biel pour les femmes, elle est beaucoup plus dans la sensibilité, dans le rapport entre les femmes. Et je trouve, c'est pas du tout péjoratif, il n'est pas là, il n'est pas là.
Il est parti boire un verre d'eau, on est tous les deux.
C'est vrai que je trouve que la version féminine est beaucoup plus touchante. Alors peut-être parce que j'ai aussi ce rôle dans cette pièce et que j'adapte peut-être aussi avec l'autre comédienne un volet peut-être plus sensible. Mais je pense quand même que, effectivement, je pense que la rencontre des femmes est quand même plus facile. Quand on ne se connaît pas, aborder une autre femme me paraît plus facile qu'entre hommes. Alors voilà, c'est un point de vue qui est vraiment, qui n'est que le mien, hein. Peut-être qu'on ne le partagera pas. Mais en tout cas, dans ce que j'ai vu du travail de Jean-Éric Biel, je trouve que la sensibilité, voilà, est beaucoup plus dans ces personnages féminins.
Et du coup, Jean-Éric Biel, si la rencontre se faisait entre un homme et une femme, est-ce que
l'écriture serait... Vous voulez faire une troisième version?
C'est vous qui voyez. Hein, ah, oui.
Et puis après, je vais... Non, je vais m'arrêter là.
Mais est-ce que, du coup... parce que du coup, moi, ça m'a fait tiquer cette chose de dire que qu'on écrive pour des hommes, qu'on écrive pour des femmes, ça allait être différent, parce que forcément, c'est différent, c'est... de façon éducative, il y a plein de choses qui diffèrent en fait. Et du coup, en provocation, je me suis dit, mais alors un homme et une femme, dans cette pièce, est-ce que l'écriture aura été encore plus
certainement,
différente?
Certainement.
Ou ça aurait été une fusion des deux,
oui,
entre sensibilité,
oui,
et non?
Certainement. Faut pas croire, quand j'ai écrit les versions masculines, quand je suis passé à la version féminine, faut pas croire que je me sois contenté de rajouter un E au participe passé. Mmh. Hein. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'effectivement, là, vous rentrez dans la psychologie d'un être humain qui n'est pas un homme, donc qui est une femme, et il faut vous y adapter, surtout quand vous êtes un homme. Mais en même temps, c'est, pour moi, c'était extrêmement jouissif, parce que j'aime les femmes d'une manière générale, et que je trouve que, voilà, je pense pouvoir dire que peut-être même je préfère les femmes aux hommes dans la vie en général. C'est même si j'ai très bon pote, hein, c'est pas le problème, ouais. j'ai pas de problème. Mais j'ai cette sensibilité-là me parlait, et peut-être c'est mon côté féminin aussi qui s'est simplement exprimé, que côté féminin que je ne renie absolument pas, que je pense qu'on a tous, hein, je pense qu'on a tous un côté masculin, un côté féminin. Et il s'est exprimé volontiers dans la réécriture. Et je pense que si effectivement je faisais une troisième version, ce que je ne ferais pas, je tiens tout de suite à le dire, entre une rencontre un homme et une femme, ce serait effectivement encore là très différent.
Ok. Eh bien, vous allez rester avec nous. On va passer à l'agenda de la semaine. Après, on parlera un peu de la promotion du spectacle. Et j'ai une dernière question à vous poser que je pose à tous mes invités. Et voilà, on revient tout de suite sur Radio Campus
Tour. Tout de suite.
Ce soir, à partir de 19h, donc c'est-à-dire dans 12 minutes exactement, courez, au Triangle, le bar à Tours, Crossover, l'émission de Radio Campus, vous propose une sélection de musique tropicale pour danser, pour transpirer dans ce froid polaire. Samedi, le Temps Machine vous propose un documentaire qui s'appellera La French Wave sur l'électro français, américain, les papas contre les petits jeunes, comment tout s'est rafistolé, et ça coûtera 5€ au Temps Machine samedi soir. Et pour finir cette semaine, dimanche, au Swing and Shot, un bar tourangeau toujours, improvisation de swing, la liste des morceaux est en train d'être confectionnée par les organisateurs. De 19h à 22h, c'est gratuit, allez improviser, allez regarder, allez danser. Nous sommes toujours ensemble. Ma dernière question sera... Vous avez face à vous tous nos auditeurs.
Oui.
Ils sont tous là. Et on sort du studio, dans un énorme hangar, dans un avion, comme vous voulez. Hein. Vous avez une chose à leur dire qui ne soit pas en rapport avec le spectacle. D'accord ? Une chose qui vient de vous. Qu'est-ce que vous auriez à dire à l'humanité, là maintenant, si elle était face à vous ?
Aimez-vous.
1-0.
Ouais, c'est un peu... Ce serait un peu maladroit de ma part de dire la même chose, mais je le pense aussi sincèrement. Je pense, évidemment, c'est une palissade que de le dire, mais je pense que... Peut-être qu'on écrit aussi, d'ailleurs, pour ça, pour montrer que dans des situations où on ne s'y attend pas, l'amour peut surgir. Voilà, c'est-à-dire que la littérature, le théâtre, les arts, d'une manière générale, le cinéma, etc., sont des choses qui, je pense... pas prétentieux de dire ça, mais je pense qu'il aide l'humanité à supporter quand même l'absurdité de la vie et la difficulté de la vie. Et je pense que l'écriture, en tout cas, à mon sens, est là aussi pour nous aider pour ça.
Tout à fait d'accord. Alors, on peut vous retrouver salle Okegem mardi 6
oui.
novembre.
Oui.
Exactement. On peut vous retrouver sur le site www.esonp, les initiales de et si on éteignait nos portables.com.
Exactement.
Et la réservation au 07 67 451 462.
Tout à fait.
Merci beaucoup
d'être
venu.
Merci à vous.
Merci Mathias.
Merci votre
beaucoup.
Accueil.
Merci de votre accueil.
Et puis, à mardi.
À mardi.
Bonne soirée à tous. Un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi. Faites attention à vous ce week-end. Il fait froid. Sortez couverts. Et une bonne soirée.